avec l'association Les Mémoires de Châteaulin, on avait décidé, comme beaucoup d'associations en fait, hein, de mémoires, d'associations historiques locales, d'histoire locale, de faire un travail sur le centenaire de la guerre 14-18. Et on a voulu faire un travail un peu différent de ce qui se faisait dans beaucoup de communes. Beaucoup de communes ont choisi en fait des expositions, ou certaines d'entre elles de publier un ouvrage, mais nous on pensait que publier un ouvrage c'était un peu compliqué. Donc on a choisi de publier un bulletin. Donc on a appelé Châteaulin 14-18, et dans son bulletin, chaque mois, on retrace ce qui s'est passé à la fois sur le front et ce qui s'est passé à Châteaulin à partir d'articles publiés dans le Bas-Breton. Et dès août 2014, donc, où on écrivait donc un bulletin sur août 1914, on s'est rendu compte qu'il manquait beaucoup de noms sur le monument aux morts de Châteaulin. Donc, tout au long de chaque mois par la suite, on a répertorié les noms manquants. Et il y a un an à peu près, on a déposé un dossier à la mairie de Châteaulin pour demander le rajout de ces 90 noms. On a fait également des recherches pour savoir dans quelle mesure on pouvait demander le rajout de noms. Et il y avait une loi de Sarkozy de 2012 qui demandait aux communes, ou qui rendait obligatoire l'inscription par les communes des noms manquants quand les personnes étaient, les soldats morts, étaient morts pour la France d'une part, mais nés dans la commune ou vivaient dans la commune au moment de la déclaration de guerre.
Comment votre travail s'est déroulé? Vous êtes allé dans les archives de la commune?
On a commencé, oui, en avril-mai 2014, à aller dans les archives municipales de la commune, où on a retiré un certain nombre de lettres, de courriers qui étaient envoyés par des familles, par des soldats, donc à la mairie, des demandes qui étaient faites au secrétaire de mairie, des demandes d'aide, parce qu'il y avait beaucoup de soldats, beaucoup de familles qui se retrouvaient dans le besoin du fait que leur fils ou leur père était parti à la guerre, donc ils n'avaient plus de travail, il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Après, on a trouvé également des documents aux archives, comme le télégramme officiel qui annonçait le début de la guerre et qui demandait la mobilisation générale. Donc c'est des documents qu'on a retrouvés. Après, on a aussi la chance à Châteaulin, par rapport à d'autres communes, d'avoir les éditions Josse de Doiré qui existent depuis la fin du 19e siècle, ce qui donnait aussi un fond photographique et des photos en particulier de régiments qui s'étaient installés à Châteaulin pendant la guerre, et ils faisaient régulièrement des défilés militaires. Après, on a une autre source d'information, c'est le journal Le Bas-Breton, qui était édité en fait toutes les semaines à Châteaulin, publié toutes les semaines à Châteaulin, et qui retraçait également des nouvelles à la fois de la vie de la commune et puis des soldats qui étaient au front. C'était un journal qui paraissait tous les samedis à Châteaulin, qui a commencé à paraître vers 1850 et qui a paru jusqu'à 1939. On a également un document dont je n'ai pas parlé, c'est le dénombrement, ce qui était antérieur au recensement qu'on fait aujourd'hui de la population. Ça s'appelait à cette époque-là un dénombrement, et un des premiers travaux qu'on a fait que j'ai fait avec Annie Verveur, ça a été de mettre sur un tableau Excel tous les châteaulinois présents, recensés à Châteaulin en 1911, ce qui nous a donné une bonne base de données. Et quand on voyait un nom, ben on tapait le nom sur notre tableau Excel et on retrouvait tout de suite où il habitait, sa famille, son métier et un certain nombre de renseignements en fait, hein, sur sa vie personnelle.
Donc ça a été un vrai travail d'investigation. Vous avez pris combien de temps par semaine, par exemple, pour vos recherches ?
Hein, on ne compte pas en fait, hein. Je n'ai pas idée, hein. Ce que je sais, c'est que ça me prend entièrement, et à ma collègue Annie Verveur qui m'aide dans ce travail, ça nous prend à chacun plus d'un week-end entier chaque mois. Et aujourd'hui, c'est quand même plus facile que si on s'était positionné il y a quelques années pour faire ce travail, parce qu'il y a énormément de sites qui existent, dont le site de Mémoire des Hommes ou des sites des Archives Nationales ou bien des archives départementales pour trouver les fiches matricules en fait, hein, des soldats, ce qui fait qu'on peut travailler de chez soi sans avoir forcément besoin d'aller sur la journée dans les archives, quoi. En plus, comme on a chacun d'entre nous une vie professionnelle aussi, c'est un peu difficile, quoi. Donc on réussit comme ça à faire les deux et puis à assouvir notre passion, quoi.
Comment vous avez illustré votre bulletin châtelain 14-18 ?
Je possédais personnellement également un fonds de cartes postales. En fait, mon grand-père, Gabriel Boguion, il s'est marié en juillet 1914, une semaine avant la déclaration de guerre. Et pendant tout le conflit, il a écrit à ma grand-mère régulièrement, ce qui fait que j'avais beaucoup de cartes postales en fait, hein, de cette période. Donc on en a publié quelques-unes. Et il servait dans le 3e régiment à pied, qui était basé à Brest, le 3e régiment d'artillerie à pied. Et ce régiment-là, je ne connaissais absolument rien, donc c'était de l'artillerie lourde. Et je tapais 3e rap sur Internet. Et j'ai vu dans la liste de documents auxquels je pouvais accéder, j'ai vu un nom, Michel Delannoy, qui habite à Draguignan. Et en fait, il avait publié un ouvrage sur ce régiment-là, parce que son grand-père était capitaine dans ce régiment-là. Je suis donc rentré en contact avec lui, et son grand-père avait cette particularité aussi, c'est d'avoir un appareil photo. Ce qui fait que, tout au long du conflit, il a tiré énormément de photos, et Michel Delannoy, donc son petit-fils, avec qui j'étais rentré en contact, il m'a régulièrement donné également des photos pour publier. Et ainsi, dans le numéro d'août qu'on a publié, ou de juillet plutôt, qu'on a publié, on a une photo aérienne où on voit ces gros canons là de 305 mm ou 320 mm posés sur des rails de chemin de fer et qui tirent en fait vers les lignes ennemies, quoi.
Ces soldats que vous avez redécouverts, ils ont été disparus, ils ont été enterrés dans des cimetières nationaux ?
Certains d'entre eux sont enterrés dans des cimetières nationaux parce que les familles avaient fait le choix en fait, de ne pas rapatrier leurs corps. Ça a été possible en fait, de rapatrier les corps et c'était aux frais de l'État, mais certaines familles ne voulaient pas trop ou ne savaient pas trop comment s'y prendre, donc ne l'ont pas fait. Et par contre, il y a des familles qui ont rapatrié leur corps et on voyait régulièrement dans le bas breton des retranscriptions, des cérémonies qui avaient lieu lors des rapatriements des corps.
Comment ça se fait que ces noms aient été oubliés ?
Pour certains noms, on ne sait pas en fait pourquoi ils ont été oubliés, on n'a pas beaucoup d'explications. En fait, il y a certainement des familles qui avaient quitté Châtelain au moment que le monument mort a été construit, ce qui fait qu'il n'y avait plus personne en fait pour rappeler la mémoire de ces soldats de Châtelain là, qui étaient morts. Et des oublis aussi, tout simplement, les mairies n'avaient pas les moyens informatiques qu'on a aujourd'hui, l'informatique n'existait pas, donc les listes étaient incomplètes. Comme il y avait également des soldats qui étaient disparus, hein, certains soldats, donc les mairies ont reçu des courriers ou des télégrammes du ministère de la guerre pour informer que tel soldat était décédé, mais ce n'était pas le cas des soldats disparus.
Est-ce que vous avez eu des retours de famille, par exemple, sur des noms de soldats que vous avez découverts qui n'avaient pas été nommés sur le monument mort ?
On a pris, quand on faisait ce travail et qu'on avait des listes de soldats morts dans le mois, donc on prenait contact quand on pouvait les retrouver avec des familles, et certaines d'entre elles nous ont envoyé des photos ou des documents de leurs grands-parents, arrière-grands-parents, morts ou pas morts à la guerre, et ce qui fait que on a pu publier nos articles avec assez régulièrement des photos ou des documents en fait, hein, de l'époque.
Est-ce que vous avez trouvé des histoires de soldats décédés juste avant la déclaration de l'armistice ?
Oui, on a des soldats qui sont décédés juste quelques jours avant. On a en particulier un soldat qui s'appelle André Boucher et qui était donc basé à Corfou et il était pilote d'hydravion et il a été tué en fait lors d'une mission en mer et les hydravions étaient chargés en fait de tirer en fait sur des sous-marins autrichiens qui patrouillaient en fait dans cette partie de la Méditerranée. Ça montre en fait qu'il y avait des châtelinois dans tous les corps. On savait qu'il y en avait en fait dans la marine, dans l'infanterie, dans l'artillerie, mais il y en avait aussi dans l'aviation et il y avait des aviateurs. Et cet André Boucher là a fait environ 79 missions. hein, en tant que pilote.
La publication de Châteaulin 14-18, est-ce que ça va continuer après la commémoration ?
On a décidé de continuer Châteaulin 14-18 jusqu'au mois de juin 2019. Le traité de Versailles qui mettait réellement fin à la guerre donc, a été signé en juin 1919. Et ces 6 mois là, qui vont se passer entre maintenant, le 11 novembre, et puis la fin juin, ça va nous permettre en fait, de publier des articles qu'on n'a pas forcément publié parce qu'on a eu les informations tardivement après que l'événement se soit passé, et également de publier des articles ou des documents que nous ont envoyés certains de nos abonnés et qui ne rentraient pas forcément dans le cadre du bulletin parce qu'ils n'étaient pas sur la commune. Mais on veut quand même publier ce qu'ils nous ont envoyé.